marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire n'en repense pas les plats, il n'y a rien à faire.
Une autre élection européenne, 1994.
France Inter.
Philippe Devilliers et Bernard Tapie ont fait encore mieux que ce que prédisaient les instituts de sondage avant les élections européennes. La liste « L'autre Europe » du député de Vendée obtient 12,38% des voix et celle du député des Bouches-du-Rhône, Énergie Radicale, dépasse les 12% d'un souffle. Cette intrusion de deux dissidents des grandes formations dans le jeu politique traditionnel bouleverse toutes les données. Les deux premiers à en souffrir sont Dominique Baudis et Michel Rocard. La liste d'union RPR-UDF est à 25,5% et celle du Parti Socialiste à 14,5%. Deux autres listes auront des députés au Parlement européen de Strasbourg, celle de Jean-Marie Le Pen, qui se situe un peu au-dessus des 17,5%, et celle du Parti communiste, qui frôle les 7%.
Allez, on vous redonnera les chiffres, mais rappelons d'abord l'époque. François Mitterrand avait obtenu de peu la ratification référendaire du traité de Maastricht de 1992, mais le PS avait connu un désastre aux législatives de 1993, passant de 250 à 50 députés. Édouard Balladur était Premier ministre, tandis que l'Élysée s'enfonçait dans le crépuscule. L'année des adieux, pour reprendre le titre d'un livre de Laure Adler. Mais le président ne résistait pas à d'ultimes jeux empoisonnés. Michel Rocard, devenu Premier secrétaire après la déroute, s'appliquait à donner à la social-démocratie une doctrine dont Mitterrand n'avait jamais eu que faire. Et Rocard jugeait normal qu'un chef de parti conduisît sa liste aux européennes. Il se présenta donc et il espérait le soutien de Mitterrand. Il ne l'eut pas. Le président préféra Bernard Tapie, qui avait été son ministre. Certes, il ne s'exprima pas en public, mais répéta en privé que Tapie se débrouillait assez bien pour ne pas avoir besoin de son aval, alors que Rocard n'avait besoin de personne pour perdre. Vint même un moment où Tapie devint celui qui interprétait le plus fort la parole européenne. On se souvient peut-être du fameux match télévisé avec Jean-Marie Le Pen, gant de boxe posé sur la table. Face à l'opportunisme d'un tel compétiteur, les adversaires de l'intégration européenne apparaissaient facilement comme les détenteurs d'une idéologie cohérente, d'un discours de vérité. En 1992 était apparu le mot « euroscepticisme ». En plus de Jean-Marie Le Pen à l'extrême droite, Philippe Devilliers le portait à droite, les communistes et Jean-Pierre Chevènement, l'ancien socialiste, à gauche. Et dans la ruralité, souvenez-vous, chasse, pêche, nature et tradition. Additionner ces voix eurosceptiques impressionnèrent un moment, mais l'instant de l'élection passée, elles ne réussirent pas à transformer l'essai. Le mot « souverainisme » ne vint du vocabulaire québécois qu'un peu plus tard. Et le souverainisme ne fut pas un fruit qui mûrit lentement et régulièrement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Olivier Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du monde parlementaire, je citerai, j'ai prononcé à Bruxelles, le traité des études parlementaires et puis un livre aux presses de Sciences Po. La maison que vous connaissez bien, les députés français et l'Europe. C'est vous qui avez voulu faire cette émission sur les élections de 94, parce qu'on accepte souvent les propositions des uns et des autres, mais pourquoi diable ?
Et on dit souvent que les élections européennes ne servent à rien, n'intéressent pas. Alors c'est vrai en partie, et en même temps il s'y passe des choses politiquement qui ont des conséquences. En l'occurrence, ces élections marquent la fin de celui qui avait été le héros d'une partie de la gauche et des Français, Michel Rocard, qui a fait un travail remarqué à Matignon pendant 3 ans, et qui là, en 3 semaines, brûle son capital politique, ce qui est assez remarquable.
Oui, mais vous me parlez des conséquences d'une élection européenne sur la vie nationale, et évidemment, une fois encore, vous ne parlez pas des enjeux européens.
Oui, mais les enjeux, enfin, la difficulté de Michel Rocard à faire sa campagne, c'est noué aussi sur les enjeux européens, sur sa difficulté à développer un discours cohérent sur ce sujet pendant la campagne.
Oui, puis surtout, après Maastricht et la grande bataille, l'innocence pro-européenne, dites-vous, c'était fini.
Oui, on a eu tendance à penser jusqu'à Maastricht, en fait, que l'idée européenne était soutenue assez unanimement. On avait des sondages de popularité de l'Union européenne qui étaient de l'ordre de 80%. Et Maastricht, c'est vraiment le point de basculement. À la surprise générale, le traité n'est approuvé qu'à 51%. Et depuis, s'ouvre une période dans laquelle on est encore, où l'Union européenne, comme principe, est contestée, discutée dans l'opinion et la classe politique.
Alors, on va regarder ce qu'il en est des quelques 20 listes. On ne va pas toutes les citer qui se sont présentées à cette époque, en commençant par celle qui était favorite, puisqu'elle correspondait à la majorité parlementaire du moment. Je rappelle que Édouard Balladur était alors Premier ministre. On l'a vu tout à l'heure sortir François-Xavier Bellamy, un intellectuel choisi par la droite modérée. La droite modérée avait choisi en numéro 2, derrière Dominique Baudis, une intellectuelle qui n'était pas encore perpétuelle de l'Académie française. J'ai nommé Hélène Carrère-Tancos.
Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que l'Europe soit une Europe de l'emploi. On diverge sur certaines méthodes, mais dans l'ensemble, on est d'accord sur les objectifs. Qui dirait ? Si vous voulez, c'est un peu comme dans les églises, où on disait aux petits garçons, qu'est-ce que le curé a dit du péché ? Il a répondu qu'il était contre, le curé, forcément. Tout le monde est pour l'emploi, tout le monde est pour l'Europe de la paix, etc. Mais la vérité, c'est qu'il faut un dessin européen. Si l'Europe a démarré en 1950, et au fond surtout le discours qui a été fait entre 1945 et 1950, c'est parce qu'on a proposé un très grand dessein à tous les Européens. On leur a dit, jamais plus vous ne vivrez dans cet univers de haine dans lequel vous avez vécu. Et c'est le grand dessein qui a entraîné et l'adhésion des Européens et l'acceptation véritablement d'un cheminement commun.
C'est bien dit, mais c'est le début de la fin pour cette argumentation qui ne peut pas être répétée à l'infini, Olivier Rosenberg.
Oui, là on a un discours un peu passe-partout, un petit peu abstrait sur les vertus pacificatrices de l'Europe, qui correspondent aussi à la position qu'occupe Hélène Carrère-Tancos dans la liste. Donc elle est sur le quota RPR, Dominique Baudis qui est premier, lui sur le quota UDF, et le RPR est profondément divisé depuis Maastricht, entre anti-maastrichtiens Pasqua Séguin et pro-maastrichtien comme Jacques Chirac, même s'il avait été prudent. Du coup, dans ces cas-là, quand il y a une forte division, ben on sort du chapeau une intellectuelle qui va tenir un discours un peu convenu,
consensuel. Vous parlez. Vous savez que nous sommes en période de campagne électorale et vous n'avez pas à vous exprimer sur les listes d'aujourd'hui. C'était pas du tout ce que vous vouliez faire, je le sais. Il y aura 28 élus pour la liste de Monsieur Baudis et de Madame Carrère-Tancos, dont un dont on se souvient pour d'autres raisons.
Solitaire, en mystère, dans sa barque il s'en allait. Grosse vague, il zigzague, le cœur et les dents serrées. Et la France, en vacances, ne fait que râler. Entre-temps, ramène à Beauville. Entre-temps, il
Alors évidemment, d'autres auraient préféré être élus dans le sillage de Daboville, dernier élu, 28e de la liste de la majorité. Bon, mais la performance n'a pas été extraordinaire, c'est vrai, pour la majorité de l'époque. Il y en a un autre qui va ramer beaucoup, vous l'avez déjà cité, c'est Michel Rocard. Alors, rappelons, il a été Premier ministre, il a eu une action remarquée, avez-vous dit, Olivier Rosenberg, et puis après la déroute des législatives de 93, les socialistes se sont retrouvés à peine plus nombreux qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils décident de prendre en main le PS, ce qui n'est pas facile, et puis d'opérer la grande transformation à laquelle ils rêvaient depuis longtemps de la social-démocratie. Et alors, ils pensent qu'il faut se présenter quand on est chef de parti. Aucune allusion aujourd'hui. Quand on est chef de parti, on se présente.
Alors, il y a une tradition au PS consistant à le faire, à ce que les premiers secrétaires se présentent, même si après tout ça n'avait pas été le cas 5 ans auparavant. Et Rocard, par ailleurs, est un homme de parti. Il se définit lui-même comme ça, comme un homme de parti. Pour lui, les partis sont l'armature de la social-démocratie. C'est une différence qu'il met en avant avec les intellectuels de la deuxième gauche. Et donc, il veut prendre ses responsabilités. On peut aussi penser qu'il y a quelque chose de mitterrandiste là-dedans, qui est d'habituer les gens à voter sur son nom. Et donc, avoir des bulletins de vote avec son nom numéro 1, c'est quelque chose qui peut être de bon augure pour la présidentielle qui va suivre en 1994, pense-t-il.
Mitterrand aime bien, maintenant qu'il est à Bruxelles, comme président de la commission, Jacques Delors, et adhère aux initiatives de Jacques Delors. Je ne sais pas s'il trouve le programme européen de Rocard suffisant, mais enfin, il a tellement de motifs à ne pas aimer Michel Rocard. Michel Rocard.
Venons au fond des choses. Enfin, c'est difficile l'Europe. Bon, on ne sait pas très bien comment ça marche à Bruxelles. Tout ça, c'est perfectible. Mais tout de même, 10 000 ans d'histoire, 10 000 guerres dans l'humanité. Et en Europe, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des peuples qui se sont combattus, qui parlent des langues différentes, qui n'ont pas la même culture, s'unissent pour faire des choses ensemble.
N'empêchant pas les guerres, d'ailleurs.
De Gibraltar au Cap Nord. Moi, je veux dire tout de suite, devant la remontée en France d'imbéciles dangereux qui se remettent à parler du parti allemand. Vous avez vu ces phrases, tant à droite et à l'extrême droite qu'à gauche. Cette philosophie raciste, au fond, de l'exclusion de l'autre, c'est une philosophie porteuse de guerre. On sait très bien comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Moi, j'ai envie de vous le dire franchement. Si cette immense aventure humaine, la plus grande de tous les temps, qui est la fabrication de l'Europe, si on doit casser cette réussite-là, moi, je considérais mes 4 enfants d'immigrés en Australie.
Bon, avec un peu plus de pittoresque, c'est une argumentation qui ressemble à celle d'Hélène Carrère d'Encausse. Vous avez entendu Anne Sinclair, hein, qui l'interroge, essaye de dire, oui, mais ben, c'est peut-être la paix grâce à l'intégration européenne, mais il y a la guerre en Bosnie.
Oui, et puis il y a la guerre en Bosnie depuis 2 ans, donc l'événement ne surgit pas pendant la campagne, ça fait 2 ans que les médias en parlent, qu'il y a des inquiétudes, que les intellectuels se mobilisent, on en reparlera. Le problème de la campagne de Rocard, puisqu'on a écouté cet extrait, c'est pas tellement son discours européen, c'est qu'il parle aussi de beaucoup d'autres choses pendant cette campagne, et notamment de ce qui le préoccupe le plus, c'est-à-dire la réorganisation de la gauche. Et du coup, il fait une campagne brouillonne parce qu'il parle de plusieurs choses à la fois, avec un certain manque de clarté qui fait... un peu son charme, mais aussi ses limites.
Parlons des intellectuels. Alors, un certain nombre d'entre eux ont monté une liste « L'Europe commence à Sarajevo », dans laquelle on retrouve le professeur Schwarzenberg et, en tête de liste, Bernard-Henri Lévy, qui reproche à François Mitterrand son attitude trop pro-serbe pendant les guerres des Balkans. Et Michel Rocard imagine qu'il va pouvoir rabibocher les intellectuels de cette liste avec son propre programme. Il va même à un meeting tenu par la liste dont Bernard-Henri Lévy a quelques soutiens, se retire une fois que la publicité est faite.
Dès le départ, le contrat était clair. Pour les fondateurs et les initiateurs de cette liste, il était hors de question d'aller jusqu'au vote. Et nous avons déposé la liste vendredi pour pouvoir continuer à faire campagne, mais les résultats du scrutin ne nous ont jamais intéressés.
À gauche, on respire, à droite, on ironise.
À partir du moment où on quitte un monde pour entrer dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on quitte le monde intellectuel pour entrer dans le monde politique, alors on découvre ce qui se passe dans le monde politique, c'est-à-dire probablement des divisions internes, probablement aussi le regard attentif sur l'évolution des sondages, probablement aussi des problèmes de mobilisation de moyens pour faire face à une campagne, et que finalement on se rend compte que aussi, peut-être on a atteint son objectif en mettant un débat au cœur de la campagne et que l'objectif atteint, il vaut mieux se retirer.
Courage, fuyons les électeurs.
Après Dominique Bolis, on a reconnu l'ironie d'Alain Juppé. Mais du côté d'un certain nombre de ses faux amis, camarades du PS, Rocard va être traité lui aussi de zozo pour avoir traité avec BHL.
Oui, et puis aussi pour avoir suivi BHL dans sa revendication principale, qui était la levée de l'embargo des ventes d'armes, ou le fait de donner des armes à la Bosnie et aux Bosniens, qui avait un embargo généralisé, auquel tenait beaucoup Mitterrand. Et Rocard cède, il va à la mutualité, quelques jours après, il dit « bon, bah oui, il faut effectivement donner aux Bosniaques la possibilité de se défendre ». Suite à ça, les intellectuels ne retirent pas leur liste, contrairement à ce à quoi ils s'étaient engagés. Et Rocard lui-même revient un peu sur ses déclarations. Donc ça donne une impression de confusion, et puis une impression aussi d'essayer de capter des voix un peu à n'importe quel prix. Donc, un certain manque de sérieux, et puis encore une fois, du brouillon, parce que quand on parle de ça, on ne parle pas du reste.
Et alors, cette liste intellectuelle, certains s'en retirent, d'autres ne s'en retirent pas, et elle va rester jusqu'au bout, totalisant un peu plus de 1% des suffrages. Il rame, Rocard. Surtout qu'il va trouver quelqu'un sur sa route qui, d'une certaine manière, est proche du président de la République. Il a été son ministre.
Non, la seule question, c'est est-ce que vous pensez que j'ai la carrure ?
La carrure, on l'a toujours. Parlez-moi plutôt de votre programme. Très bien. Parlez-moi de votre méthode, alors.
Bah, la méthode, grosso modo, c'est la vôtre.
Il me plaît bien, celui-là. Il est plein de vie. Il s'habille mal, mais il ne doute de rien. Votre stratégie est bonne. Mais il vous reste des choses à apprendre. La diplomatie, la patience, et surtout le mépris.
On aura reconnu, vu par les guignols de l'info, Bernard Tapie, qui est député de Marseille, même si son immunité parlementaire a été levée, qui a été ministre de la ville de François Mitterrand, qui a pris le MRG, le mouvement des radicaux de gauche, et qui entend constituer une liste. Olivier Rosenberg.
Oui, il va le faire. Il va faire une très bonne campagne, Tapie, pour le coup très pro-européenne. Alors, il s'embarrasse pas des problèmes sur la Bosnie, il dit qu'il soutient 100% François Mitterrand et sa politique. Et puis, il dit, nous sommes les fédéralistes, nous sommes les pro-européens, à un moment où le PS est, je vous le disais, embourbé dans différentes questions, et puis il est un petit peu confus dans son discours, parce qu'ils veulent récupérer des anti-maastrichtiens. Et c'est une leçon des différentes élections européennes jusqu'à aujourd'hui, celui qui parle clair a un avantage. Bernard Tapie parle clair, et ça va payer puisqu'il finit à 12%, ce qui est un score inespéré.
Oui, mais attendez, il fait une bonne campagne. Il a quand même le soutien implicite de François Mitterrand, qui dit, ou dirait, « Bernard Tapie vaut mille fois mieux que beaucoup de ceux qui le combattent ». Parce qu'on est choqué aujourd'hui que le président de la République s'expose, surexpose dans la campagne des européennes. Enfin, il y avait de quoi être choqué à l'époque qu'un président de la République soutienne de cette façon, comment dire, un aventurier de la politique.
Alors, factuellement, Mitterrand ne prend pas position publique, ni oralement, ni par écrit pour la liste Tapie. Est-ce qu'il le laisse faire ou pas? C'est le genre de débat dont raffolent les journalistes et les intellectuels. Mon opinion sur le sujet, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose. En revanche, Tapie a été très habile pour se prévaloir du soutien de Mitterrand, qui sans doute n'était pas si évident que ça. Et Tapie, on le sait, a un sens politique important dans ces moments-là. Donc il fait comme s'il était soutenu par Mitterrand. Mitterrand ne fait pas grand-chose. Il est assez énervé, Mitterrand, de cette rumeur comme quoi il soutiendrait Tapie. On sait qu'il réunit...
Il avait qu'à soutenir Rocard.
Mais il le fait. Il est sur l'Aventin, c'est le président lointain.
D'accord.
Il réunit son cabinet, ce qu'il ne fait très très rarement. Il réunit son cabinet, Mitterrand, pour démonter un à un les arguments comme quoi il aurait soutenu Rocard, ce qui n'empêchera pas les rocardiens de dire que Mitterrand envoyait un scud, ce à quoi Mitterrand répondra qu'une pichenette aurait suffi.
Mais Rocard, parmi les mille motifs d'agacement qu'il provoquait, et agacement est un mot faible, chez Mitterrand, le gênait par sa campagne sur la moralisation de la vie publique, parce que nous sommes peu de temps après l'affaire Patrice-Roger Pelat, le prêt à Pierre Bérégovoy, François de Gosseroux ouvre, bien que ce ne soit pas une question d'argent qui l'ait motivé, s'est suicidé à l'Élysée. Et la moralisation de la vie publique, elle est au centre des débats cette année-là.
Oui, de ces années-là, c'est la préoccupation politique numéro un. On a du mal à se remettre dans ce contexte, mais oui. Après, je ne pense pas que c'était le moteur de la haine entre Mitterrand et Rocard, qui était beaucoup plus recuite.
Habilement, d'ailleurs, on va parler des eurosceptiques dans un instant. Philippe de Villiers va prendre sur sa liste le juge d'instruction vedette. C'est lui qui s'était occupé de l'affaire du prêt de Bérégovoy, Thierry Jean-Pierre, qui avait même recommandé qu'on mette en examen le président de la République. C'était un beau coup, ça.
Oui, c'était un beau coup. En même temps, ce genre de coup révèle le côté orienté politiquement des petits juges, comme les appelait Mitterrand, puisque on a la confirmation que c'était un militant de la droite dure.
Bon, vous parlez comme François Mitterrand, qui devait trouver qu'Eva Joly, juge d'instruction, pas encore très connu à l'époque, poursuivait pour harcèlement, par volonté d'harcèlement, Bernard Tapie.
Oui, c'est vrai.
Bon, puisque vous ne reconnaissez pas tous ses mérites, Michel Rocard, moi j'insiste sur le fait qu'il a instauré de sa propre initiative la parité dans sa liste, et que même de ça, on l'a moqué. On a appelé la liste Shabadabada. Tiens, c'est une formule qui est de circonstance au moment où le louche propose une nouvelle version d'un homme et une femme au Festival de Cannes.
Comme nos voix badabada, babada, babada, chante tout babada, 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 nos cœurs y voient babada, 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 comme une chance, comme un espoir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La France va mal. Pendant des années, on nous a dit que la crise était un moment passager, qu'il fallait accepter un certain nombre de sacrifices et que demain ça irait mieux, que grâce à Maastricht, y compris, les choses iraient mieux. Le bilan, on le connaît. Le chômage, la précarité, l'exclusion.
Maastricht devait tout régler. Et je crois que Maastricht aujourd'hui est en train de ne rien régler du tout, d'autant plus que pour certains pays de la communauté européenne ou de l'Union européenne aujourd'hui, on a essayé de faire un traité sur mesure qui a pour conséquence, par exemple, de fermer l'usine ouverte dans la Côte d'Or et de la transférer dans un autre pays de la communauté européenne où les charges sociales sont beaucoup moins importantes. Alors si c'est ça l'Europe qu'on nous propose pour demain ou pour aujourd'hui, j'ai quelques inquiétudes et je ne peux pas souscrire à cette théorie.
Avec Olivier Rosenberg, aujourd'hui, le récit de la campagne européenne d'il y a 25 ans, 1994, où monte ce qu'on commence à appeler l'euroscepticisme. Le Robert dit que le mot est apparu en 1992. On entendait le leader communiste Robert Hue. Et puis, celui de chasse nature, pêche et tradition, un courant qui naît à cette époque et qui constitue une liste qui va faire près de 4% des voix et va manquer de peu la désignation de tel ou tel de ses membres au Parlement européen. Alors, racontez-nous en quoi une élection européenne est, Olivier Rosenberg, selon vous, favorable aux idéologues qui racontent un autre récit de l'Europe que celui alors dominant.
Aux élections européennes, on est débarrassé de la nécessité d'un vote utile. On peut faire un vote à la fois de conviction pour certains. Je pense par exemple à des gens qui éviteraient de voter vert pendant longtemps pour favoriser le candidat le mieux placé à gauche, un vote de conviction, et puis un vote de protestation, avec l'idée que les élections les plus importantes sont les élections présidentielles et législatives, et que là, on peut, selon l'expression consacrée, envoyer un message. Et du coup, les candidats ayant des opinions tranchées sur la question européenne font des performances régulières, en pour comme en contre. Donc, on parlait de l'exemple de Bernard Tapie avec un discours très, très fédéraliste. Et là, sur ces élections, c'est l'émergence de Philippe de Villiers qui va rester 15 ans dans le paysage politique sur un discours très critique, mais qui, à l'époque, n'est pas uniquement focalisé sur le nom à l'Europe de Maastricht, comme il disait lui-même, mais également sur la question de moralisation. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître comme député
avec justement le choix du juge Jean-Pierre parmi ses colistiers les plus importants. Il bénéficiait du soutien du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua.
Alors Charles Pasqua avait laissé entendre, ou avait dit explicitement, qu'il faudrait compter ses voix parmi les voix de la majorité. Et donc c'est un parallèle assez ironique entre la question du vrai-faux soutien de Mitterrand à la liste Tapie, le vrai-faux soutien de Pasqua à la liste de Villiers. Aux élections européennes suivantes, 5 ans plus tard, ils conduiront une liste ensemble qui aura un succès important.
Mais alors comment compter ensemble les eurosceptiques, j'emploie le mot, ils seraient récusés peut-être par tel ou tel de ceux que je désigne ainsi, comment concilier l'euroscepticisme de gauche de Chevènement qui présente une liste et celui de Villiers de l'autre rive?
Mais il y a des tentatives dans ces années-là de justement rejoindre d'union entre les eurosceptiques des deux rives, ou les anti-européens des deux rives, quelle que soit la façon dont on les appelle. Ces tentatives, elles vont monter en puissance jusqu'à la présidentielle de 2002 et à la campagne de
Donc c'est un tremplin, cette élection de 94.
Ça participe de ce mouvement-là, dont on sait aujourd'hui, comme cette phase-là est relativement achevée, dont on sait qu'elle va échouer et qu'elle ne va pas émerger une grande force politique gauche-droite anti-européenne.
À l'extrême droite, irréductible, Jean-Marie Le Pen, mais qui ne progresse pas.
Oui, elle ne progresse pas, mais alors c'est des élections très importantes pour le Front National de l'époque, puisque c'est les seules où ils ont des élus, ce qui leur amène un financement, et je n'en dirai pas plus.
Je vais rappeler aux auditeurs le souvenir de ce fameux épisode que Paul Amar a dû animer contre son gré. Il y avait 4 débats sur sa chaîne entre des leaders pour l'élection européenne et lui avait échu le rôle d'arbitrer, celui entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen.
Vous avez débattu une première fois à TF1, c'était en 89, j'avais vu ce débat, tous les Français d'ailleurs l'avaient vu, ils se souviennent de ce débat houleux, vous avez échangé des noms d'oiseaux, vous avez presque failli en venir aux mains. Alors comme je m'en souviens, j'ai pris quelques précautions. Comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre. et puis un casque si ça se passe mal. Mais il n'y avait plus qu'une seule couleur, c'est le rouge.
Seulement.
Oui, oui.
Ah, on les garde pas.
Non, on les rend demain. Pas de cadeaux et pas de production.
Oui, gardez.
Ce truc, voilà.
Est-ce que dans l'esprit des électeurs, vraiment, le rôle de chacun était bien défini? Est-ce qu'on imaginait généralement Tapie comme sincère? Est-ce que c'était lui le véritable champion d'une cause européenne? Il était opportuniste.
Écoutez, Bernard Tapie a convaincu 12% des électeurs. Les sondages en début de campagne le donnaient à 6%. Donc il a réussi à convaincre une partie des Français. Il faut dire que le PS était usé à l'époque. Il l'est aujourd'hui à multiples égards.
Et puis
donc il y avait de l'espace à gauche pour quelqu'un d'autre.
On peut regarder qui l'a rejoint. Christiane Taubira, qui était peu connue à l'époque.
Noël Mamère. Catherine Lalumière.
Oui.
Il a su constituer une liste très habilement avec des déçus de la liste Rocard que Rocard n'avait pas mis sur sa liste, empêtré qu'il était dans les différents courants du PS et dans sa règle de Shabadabada.
Et une féministe, c'est quand même drôle qu'une féministe vienne rejoindre Bernard Tapie, Antoinette Fouque, a été la dernière élue de son contingent. Les conséquences, alors en deux ou trois points, de ce scrutin, Olivier Rosenberg.
On voit s'installer une montée en puissance des courants souverainistes de droite. Donc on est après Maastricht et Villiers fait 12%.
Vous dites souverainiste, le mot va apparaître peu après.
Peu après, tout à fait.
Il vient du Québec.
Au Québec, oui. Alors, ils montent en puissance et quelques années plus tard, ils seront encore plus importants. Ils fractureront vraiment le RPR. On voit aussi l'importance de mouvements d'opinion éphémère pendant une campagne électorale réussie. Encore une fois, Tapie trouve un espace en quelques semaines. Et ça nous évoque des choses qui vont durer. On voit aussi les faux semblants de la politique avec cette attitude ambiguë de Mitterrand comme de Pasqua. Et on voit enfin la difficulté des socialistes à trouver un espace entre une droite de gouvernement dominatrice et des courants critiques.
Et la chute de Rocard, qui ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, les laissera démunis. Enfin, ils espéraient à l'époque que Jacques Delors de Bruxelles viendrait sauver le Parti Socialiste. Quant à Bernard Tapie, il faut savoir qu'il avait perdu son immunité parlementaire française, qu'il n'avait pas encore l'immunité parlementaire européenne et que l'été a été difficile pour lui, sans yacht, les comptes en banque saisis, sans carte bleue. L'idée lui est d'ailleurs venue, dans une conversation téléphonique avec son second, d'aller faire un truc au Rwanda. Oui, parce qu'on était en plein génocide du Rwanda, mais Eva Joly avait fait intercepter la conversation. À propos du Rwanda, Emilienne Mukansoro, rescapée du Rwanda, devenue thérapeute, sera notre invitée demain. Cette émission avec Olivier Rosenberg était préparée par Franck Olivard et Frédéric Martin, Patrick Henry à la technique et Audrey Ripouille à la réalisation.